France Culture.
Le journal est signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les relations amour-haine entre Donald Trump et Elon Musk, quelle place pour les intérêts de l'un et de l'autre, au-delà des mots? Nous y reviendrons en ce début de journal après la grandiloquente rupture hier et ce matin entre le président des États-Unis et le milliardaire. Gaza, le parquet national antiterroriste ouvre une enquête préliminaire visant des franco-israéliens soupçonnés d'avoir entravé l'aide humanitaire. Une enquête pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Nous entendrons également le président de Reporters sans frontières. 150 rédactions du monde entier et associations demandent de pouvoir entrer dans Gaza. En France, le gouvernement fait 42 propositions pour favoriser l'égalité des chances dans les quartiers populaires. Priorité à la jeunesse, nous dira Flore Caron. Et puis l'enquête de ce journal, nous nous intéresserons à Chemours, le géant mondial de la chimie, mais aussi grand pollueur et producteur de polluants éternels, les PFAS, au moment où l'usine française de Villers-Saint-Paul s'apprête à fermer. Les mots ont été forts, acrimonieux et lourds de menaces, mais 24 heures après la rupture entre Donald Trump et Elon Musk, on en est encore à se demander quelles seront les conséquences de la brouille entre le président américain et celui qui fut son soutien le plus fervent et intéressé, à savoir le patron de Tesla et de SpaceX. Hier, le président des États-Unis avait notamment menacé de rompre les contrats publics conclus avec les entreprises de l'homme le plus riche du monde. Entre les deux hommes, le projet de loi budgétaire, le cœur du mandat de Donald Trump, Elon Musk a lancé la semaine dernière un tir de barrage contre le texte. Trump et Musk ne se parleront pas aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pensait. Ce qui est sûr, Sébastien Paour, c'est que leur divorce, au grand jour, hier, leur a déjà coûté très cher.
Une rupture à 21 milliards de dollars, rien que sur la journée d'hier, d'après la presse américaine, parce que les deux milliardaires possèdent de vastes empires commerciaux, avec chacun une société cotée en bourse que les investisseurs ont délaissée dès qu'ils ont commencé à s'invectiver personnellement sur leurs plateformes respectives. Les actions Tesla ont chuté de plus de 14%, ce qui a coûté un peu moins de 20 milliards à Musk. Le constructeur de véhicules électriques a perdu hier plus de 152 milliards de dollars de valeur boursière, la plus forte baisse de son histoire sur une seule journée. Des pertes aussi côté Trump. Son groupe de médias a abandonné 8%, soit une perte de 202 millions de dollars pour le président américain, auquel il faut surtout ajouter la baisse d'environ 10% de sa crypto-monnaie officielle, la Trump Coin, ce qui pourrait lui coûter près de 900 millions de dollars.
Alors qu'il n'est aucun entretien téléphonique entre Donald Trump et Elon Musk n'est prévu, contrairement à ce qu'avaient indiqué les services de la Maison-Blanche. Cela dit, il est difficile pour l'instant d'affirmer que la brouille est définitive, car les deux hommes sont imprévisibles et dépendants l'un de l'autre. Voilà ce qu'en dit Corentin Célin, professeur d'histoire américaine et chroniqueur de la politique américaine pour le site lesjours.fr.
Le rôle de Musk était très ambivalent parce que il a beaucoup pris la lumière, il a beaucoup, sans doute beaucoup trop au goût même de Donald Trump. Il était extrêmement présent depuis la transition présidentielle, à la fois dans le cercle intime de Trump, mais aussi depuis janvier dans les allées du pouvoir. Mais ça avait un avantage jusqu'ici, c'est que Musk s'est vite révélé en étant associé en particulier aux réductions massives d'emplois publics. Musk est vite devenu très impopulaire et encore plus impopulaire que Donald Trump. Donc en quelque sorte, Musk pouvait servir de défouloir et de paratonnerre pour Donald Trump en termes de popularité. Mais incontestablement, comme Musk est apparu en particulier, on l'a vu sur certains scrutins, sur certaines partielles locales, sur une élection au Wisconsin pour un siège de la Cour suprême, en avril, Musk est apparu comme un repoussoir électoral et il y a une forme de calcul qui s'est opéré chez Trump et chez ses conseillers républicains qui était de se dire mieux vaut maintenant quand même se détacher de lui au plus vite à l'orée des midterms qui se préparent déjà. On est déjà parti sur ce cycle des midterms 2026 et Musk pourrait devenir toxique, même si on rappellera encore que tout ceci est tout frais et provisoire et que, connaissant le tempérament des deux hommes, on peut avoir des rabibochages surprenants.
Corentin Célin, professeur d'histoire américaine, il était joint par Valérie Cantier. C'est une première. Le parquet national antiterroriste se saisit d'une plainte pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité à Gaza. Une information judiciaire a été ouverte au mois de mai. Elle vise des franco-israéliens. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza entre les mois de janvier et mai 2024. David Di Giacomo.
Oui, l'ouverture de cette enquête fait suite à une plainte déposée en novembre dernier par l'Union juive française pour la paix, mais aussi par une victime franco-palestinienne. Dans leur viseur, deux collectifs, Israelis Forever et Tzav Techa, soupçonnés d'avoir contribué à la famine en cours dans la bande de Gaza en bloquant, entre janvier et mai 2024, les rares camions d'aide humanitaire autorisés à entrer au niveau de deux postes frontières. Ce sont les membres de deux collectifs franco-israéliens qui sont visés, les avocates des jointes par France Info, se disent très satisfaites de cette ouverture d'information judiciaire par le parquet national antiterroriste et attendent désormais, précise-t-elle, de voir si la suite de l'instruction sera tout aussi cohérente. À Gaza, plus de 90% de la population palestinienne est considérée en situation de famine par plusieurs agences des Nations Unies.
Gaza, où les journalistes internationaux sont toujours empêchés de pénétrer, et ce depuis le 7 octobre 2023. Alors, près de 150 médias ou organisations de défense des journalistes à travers le monde ont décidé de lancer un nouvel appel pour l'accès immédiat et sans restriction de la presse internationale à Gaza. Sur place, les reporters gazaouis sont, eux, régulièrement ciblés par l'armée israélienne. Environ 200 d'entre eux ont été tués depuis le début de la guerre. Thibaut Brutin est le directeur général de Reporters sans frontières qui a coordonné cette lettre avec le Comité pour la protection des journalistes. C'est la première fois qu'un appel de cette ampleur est lancé.
On n'a pas entendu assez la diversité des voix s'exprimer sur Gaza. Donc c'est le sens de cet appel que de montrer à quel point il y a un front commun. Par-delà les différences de taille, de pays, de culture, il y a un engagement profond de la part de tous ces rédacteurs en chef d'avoir des médias qui soient des médias sri-lankais, d'avoir des médias équatoriens, thaïlandais, nigérians, sénégalais, d'avoir cette diversité qui s'exprime. Il y a une conscience au sein de la profession du besoin d'accès à l'information à Gaza. On n'a jamais vu une situation de siège pareille où des forces armées d'un pays qui se veut démocratique bloquent l'accès à la couverture par des reporters de guerre. La volonté de cacher ce qui s'y passe, elle est aussi associée à des frappes indiscriminées qui tuent des journalistes, à des ciblages qui tuent des journalistes et à des campagnes de diffamation répétées contre des journalistes décédés ou vivants qui sont les yeux et les oreilles de la communauté internationale à Gaza. Il y a une politique délibérée de ciblage d'un très grand nombre de journalistes. En 10 ans de travail à Reporters sans frontières, c'est la première fois, moi, que je me retrouve quasiment à mendier pour obtenir des évacuations humanitaires. C'est scandaleux ce qui se produit. Les forces armées israéliennes, c'est une armée qui parle beaucoup. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ne répondent pas sur les problématiques qui sont liées à la liberté de la presse, en revanche. Il faut qu'il y ait désormais autre chose que la parole des forces armées israéliennes et de leurs nombreux porte-parole. Il faut que, systématiquement, ils soient confrontés à une question relative au traitement de nos confrères à Gaza et ailleurs.
Le directeur général de Reporters sans frontières, Thibaut Brutin, avec Fiona Mogadam. Israël a de nouveau menacé cet après-midi de continuer à frapper Beyrouth si le Liban ne désarmait pas le Hezbollah, affirmation de Tel Aviv, au lendemain d'une série de frappes israéliennes qui ont visé le mouvement soutenu par l'Iran dans la banlieue sud de la capitale libanaise, les frappes les plus violentes contre ce bastion du Hezbollah depuis le cessez-le-feu de novembre dernier. Les plus récentes contre la banlieue sud de Beyrouth remontaient au 27 avril. Le gouvernement a dévoilé cet après-midi 42 propositions pour renforcer l'égalité des chances pour les enfants et les adolescents dans les quartiers populaires. François Bayrou et 8 de ses ministres se trouvaient à Montpellier pour un comité interministériel des villes. Le rendez-vous avait été reporté par 2 fois. Il était particulièrement attendu, mais dans un contexte budgétaire particulièrement tendu. Bonsoir Flore Caron.
Bonsoir.
Le gouvernement a voulu mettre l'accent sur la jeunesse, mais y a-t-il des annonces fortes ?
Plus de la moitié des annonces correspondent à la poursuite des programmes existants, des actions qui vont de la toute petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. Parmi ces mesures, la création de 100 crèches d'ici à 2029, l'instauration aussi d'un accueil psychologique pour les jeunes en situation de fragilité psychique. Catherine Arnoux, vice-présidente de l'association Ville et Banlieue, salue l'accent mis sur l'enfance et la jeunesse.
C'est un truc pour lequel je me bats depuis longtemps parce que je pense que c'est un véritable enjeu pour les années à venir. Il y a eu des sujets, par exemple, qui ont été abordés qui ne l'étaient pratiquement jamais. C'est la santé mentale pour nos jeunes publics et comment dans tous les programmes de réussite éducative, on inclut la santé puisque c'est un problème qui nous saute à la tête régulièrement. Donc, c'est plutôt bien.
Côté insertion professionnelle, les jeunes des quartiers populaires seront guidés vers les métiers de la fonction publique. Les classes prépa talents, quant à elles, qui accueillent des étudiants boursiers, devront augmenter la part des jeunes issus des quartiers populaires. Des questions primordiales pour Awefa Fakbemi, présidente de l'association Cité des Chances.
Je pense que dans un contexte de défiance entre les jeunes des quartiers prioritaires et les institutions, faire de la fonction publique un espace d'insertion pour les jeunes, à mon sens, je trouve que c'est très intéressant. Et s'appuyer sur des dispositifs tels que les prépa talents qui existent depuis quelques années déjà, mais qui sont mobilisés pour un nombre hyper restreint de jeunes, aller vers plus de bénéficiaires de ces dispositifs-là, je trouve que c'est assez intéressant.
Reste à voir à présent quels moyens financiers seront donnés aux acteurs pour mettre en place ces mesures, nous dit-elle, dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'économies pour 2026.
Merci Flore Caron. Les centres d'accompagnement des auteurs de violences conjugales font le plein, créés en 2020 à l'issue du Grenelle des violences conjugales. La trentaine de centres ont pour objectif de prévenir le passage à l'acte et la récidive des auteurs. L'année dernière, plus de 66 000 auteurs ont été pris en charge. Bonsoir Laïla Saïdi.
Bonsoir.
Ce qu'il faut noter, c'est l'augmentation des auteurs de violences conjugales qui font une démarche volontaire.
Oui, en 2022, ils étaient 1300 auteurs de violences conjugales à pousser la porte d'un centre de prise en charge de leur plein gré. En 2024, ce chiffre a doublé. C'est le constat fait par les CPCA, les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales, qui voient arriver des auteurs de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle. À noter que ces volontaires n'ont plus de contraintes judiciaires et n'ont jamais eu affaire à la justice. La plupart sont salariés et parfois même en couple. Tous cherchent à bénéficier d'un dispositif global, explique Claire Horry, directrice générale de la RSL, l'association de réinsertion sociale du Limousin, structure qui pilote tous les centres de prise en charge.
On leur rappelle aussi le cadre légal, que la violence, c'est un cycle. On a aussi un accompagnement psychothérapeutique, un suivi au niveau des addictions, un accompagnement médico-social et un accompagnement socio-professionnel. On vise une stabilité professionnelle, psychologique, pour pouvoir sortir l'auteur de sa spirale.
Et sur le terrain, assure Claire Horry, les auteurs témoignent d'un déclic, voire d'une déconstruction.
Dans la grande majorité des cas, on voit s'opérer le déclic pendant la prise en charge. Ils se responsabilisent. Hein. Déjà, ils admettent qu'ils ont un problème et que ce qu'ils ont posé, c'est grave. Et donc, ils demandent à poursuivre l'accompagnement.
Une demande d'accompagnement à la hausse que ne peuvent gérer les centres, victimes de leur succès 5 ans après leur création. Ils souffrent d'un manque de moyens humains et financiers.
Merci Laïla. La justice a ordonné un procès contre le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, qui devrait se tenir fin septembre à Lyon. Gaël Perdriau est renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire de chantage à la vidéo intime visant l'un de ses adjoints. La baisse démographique commence à toucher les années de lycée, c'est ce qu'indiquent les chiffres de candidats au bac donnés par le ministère de l'Éducation. L'an dernier, le nombre de candidats pour les épreuves de terminale était en hausse de 1,3% sur un an. Cette année, le bac concerne 724 633 candidats en terminale, exactement, en baisse d'environ 1% sur un an. Arrêtons-nous un moment sur un géant mondial de la chimie, Chemours, un géant qui pollue, un producteur de PFAS, ces produits chimiques qu'on surnomme polluants éternels. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Vous avez enquêté sur cette entreprise qui s'appelait avant Dupont de Nemours et qui a été condamnée aux États-Unis pour pollution massive des eaux. Chemours est également visée par une enquête aux Pays-Bas et en France, elle s'apprête à fermer son usine.
Oui, son usine de Villers-Saint-Paul, près de Creil, dans l'Oise. 59 personnes, bientôt licenciées cet été. Chemours stoppe donc sa production, mais que va-t-elle laisser derrière elle? Une pollution des eaux, une pollution des sols? Ce sont des questions qui travaillent Jean-Claude Villemain, le président de la communauté d'agglomération.
Je souhaite qu'on puisse accéder au site. Je souhaite qu'on puisse savoir comment et de quoi est pollué ce site. On ne peut pas rester avec une bombe à retardement à proximité de chez nous.
Chemours s'est installé ici à Villers-Saint-Paul en 2002 sous son ancien nom Dupont. Et ce que nous avons découvert, c'est que pendant près de 20 ans, l'entreprise n'a ni contrôlé ni mesuré précisément ses rejets de PFAS. C'est ce que reconnaît pour la première fois Marc Chefson, le directeur de l'usine.
Moi, je suis arrivé courant 2022. On était en train de quasiment finir les premières campagnes. Il faut savoir que les molécules sont difficilement analysables. Tout le monde ne sait pas faire ce genre d'analyse. Donc, il a fallu trouver les bons organismes. Et après, on a cherché qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire. Et on voit les résultats. Année après année, on réduit drastiquement nos émissions.
Kemmour s'affirme aujourd'hui rejeter 34 fois moins de PFAS qu'en 2022. Mais ça n'empêche pas le secteur d'être pollué. L'eau des puits est contaminée au PFAS. Mieux vaut ne pas arroser son potager avec. Les œufs aussi sont contaminés. Pareil pour la rivière Oise qui borde la plateforme chimique et dans laquelle les habitants viennent se baigner comme si de rien n'était.
Il suffit d'être à jour au niveau vaccin, etc. Et ça risque rien. Je serais déjà malade depuis sinon.
Pour moi, tant qu'on ne boit pas la tasse, qu'on se lave bien en rentrant, après oui, c'est pas clair, c'est pas transparent. Puis en plus, si c'est interdit, c'est pas pour rien aussi non plus. Hein.
C'est écrit que c'est interdit?
Ah oui.
Ouais, moi c'est. Je sais pas, je suis bien.
Dans cette eau, des quantités impressionnantes de PFAS ont été relevées par des chercheurs dès 2013.
Des PFAS, Julie, ont été retrouvés aussi dans le sang des salariés de Kemmours.
Oui, le PFOA, cancérogène interdit en Europe, et un autre PFAS très utilisé par Kemmours. Mais les salariés ont pu être contaminés ailleurs, estime l'entreprise. Cet employé inquiet demande un suivi médical après son licenciement. Nous avons fait lire son témoignage.
On ne fabrique pas des produits inoffensifs quand même. Il faut qu'on soit suivi après la fermeture. On sait que des anciens sont malades. Et aujourd'hui, on surveille nos enfants en espérant qu'il n'ait rien. On fait comment si on découvre dans quelques années que ce à quoi on a été exposé ici est très nocif?
Et quand on l'interroge sur les raisons de son départ, Kemmours répond rien à voir avec les rapports alarmants d'ONG ou la surveillance accrue dont elle fait l'objet. En fait, nous n'avons plus de clients, explique la direction. La faute aux réglementations européennes, françaises qui s'attaquent aux polluants éternels. Une explication qui met en colère le député écologiste Nicolas Thierry.
Je pense qu'on est sur des stratégies de prédateurs. Ils arrivent, ils s'installent, ils produisent, ils polluent et ils partent. Quand ils voient que le vent commence à tourner et qu'à un moment ou un autre, ils pourraient être mis à contribution pour dépolluer, eh bien, en fait, ils ferment les sites et ils s'en vont. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je constate.
Et en France, une plainte a été déposée par l'association Génération Future pour atteinte à l'environnement.
Merci Julie Pietri. Votre enquête complète est à retrouver en longueur sur l'appli Radio France. On est le 6 juin, c'est la journée mondiale de la mini-jupe. Oui, elle a été lancée en 2015 à Tunis, une action de solidarité à l'époque envers une jeune étudiante qui n'a pas eu le droit de passer un examen à l'université en Algérie parce qu'elle portait une mini-jupe. Ce vêtement est utilisé comme un symbole d'émancipation depuis sa création, Emeline Bonavent.
La mini-jupe est développée par la styliste anglaise Marie Kant au début des années 60. Jeannine Mossulaveau, directrice de recherche émérite spécialisée dans les questions du genre à Sciences Po Paris, se souvient de son arrivée révolutionnaire en France.
Ça disait qu'on était libre de montrer son corps, parce que la façon de s'habiller pendant des siècles, ça consistait à cacher son corps. Et c'est vrai qu'elle est devenue de plus en plus courte. D'ailleurs, celles qu'on voit maintenant, elles sont là vraiment au ras de la joie de vivre. Hein. Je dis, il ne faut pas qu'il y ait un petit coup de vent parce que, bon, ça n'allait pas jusque-là, mais il y en a qui voilà, se rapprochaient. Pour certaines femmes, c'était la preuve qu'elles s'émancipaient.
Une émancipation difficile, l'arrivée de ce vêtement fait évidemment l'objet de critiques et les femmes qui en portent se retrouvent en première ligne.
Les mères ou grand-mères de l'époque disaient, sors pas comme ça, tout dépoitraillé. Ça disait vraiment l'écart des générations, disons. J'ai des amis qui raccourcissaient leur jupe d'année en année pour arriver, sans que ça se voit trop, à quelque chose de plus court. Ça se faisait naturellement, on avait envie d'être comme ça, quoi.
La difficulté est toujours d'actualité. Pour Zoé, une étudiante, elle estime que les femmes qui portent des mini-jupes restent la cible de remarques.
Quand on sort dans la rue, on se rend compte en fait, de l'acte de résistance que ça peut être parce que les regards sont insistants et on se rend compte que c'est pas totalement accepté aujourd'hui, mais à la base, je la porte juste parce que je me trouve belle dedans.
Selon le baromètre du sexisme du Haut Conseil à l'égalité, publié l'année dernière, Plus d'une femme sur deux renonce à s'habiller comme elle le souhaite, par peur de commentaires ou de regards.
Emeline Bonavent, le temps demain, le ciel sera très nuageux sur la plupart des régions, du sud-ouest à l'Alsace. Le soleil sera en revanche bien présent dans le Languedoc-Roussillon et la région PACA. Les températures maximales à l'affiche 16 à 21 degrés sur la moitié nord, 18 à 23 degrés sur le sud-ouest. Elles atteignent jusqu'à 25 voire 30 degrés en bord de Méditerranée et en basse vallée du Rhône. Ce journal est désormais terminé. Olivier Arnay à la technique.